Voici une question dont la réponse nous amènera à mieux connaître le Seigneur. Est-ce que Jésus a été un martyr? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et puissante, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je suis certaine qu'on va vraiment en apprendre beaucoup aujourd'hui sur la personne de Jésus-Christ, qu'on va réaliser davantage à quel point il a souffert pour nous. Voici donc les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures. Humainement parlant, est-ce que quelqu'un d'autre peut souffrir à notre place? Est-ce qu'un être mortel pourrait endurer ce que Jésus a souffert? Est-ce que Jésus a été un martyr? Est-ce que les croyants doivent souffrir pour proclamer l'Évangile? Est-il possible de plaire à Dieu et de plaire au monde en même temps? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui nous choisit, nous appelle et nous forme pour proclamer l'Évangile? À qui le Seigneur proclame-t-il son Évangile? Quelles sont les bénédictions que contient le message de l'Évangile? Comment pouvons-nous recevoir ces bénédictions? Est-ce qu'on prêche l'Évangile si on ne prêche pas Jésus-Christ? Quelle est la mission de l'Église de Jésus-Christ? Restez des nôtres, la parole de Dieu va répondre avec précision à chacune de nos questions dans quelques instants par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Seigneur, on a besoin de ta grâce. On te demande de nous faire un beau cadeau aujourd'hui, ce cadeau de mieux te connaître, ce cadeau d'être béni par ta parole. Qu'elle puisse enrichir nos vies aujourd'hui pour qu'on puisse davantage travailler pour ta gloire. Que nos vies soient transformées pour ta gloire. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que toute plénitude habite en Jésus-Christ. Il est pleinement Dieu et en lui nous avons tout ce qui est nécessaire à notre salut. Rédemption, pardon des péchés, justification, sanctification et glorification. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Citation de Romains, chapitre 8, les versets 29 et 30. Nous avons vu que Dieu s'est réconcilié aux pécheurs par le sang de son Fils versé à la croix. Maintenant, il nous propose d'être réconciliés avec lui. Il nous invite à venir à lui afin d'être pardonnés. Le fait que Dieu ait accepté de tout réconcilier avec lui, les choses d'en haut et les choses sur terre, ne signifie pas que tous seront sauvés. Une personne doit accepter de venir à Jésus avec un cœur repentant. Seuls ceux qui répondent à l'invitation d'être réconciliés avec Dieu le seront et seront sauvés. Par contre, le Seigneur Jésus a promis de ne jamais rejeter quiconque viendrait à lui. Il a dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jean chapitre 6, verset 37. Ceux qui iront en enfer n'iront pas parce que Dieu était incapable de les sauver ou parce que Dieu n'a pas pourvu au nécessaire pour leur salut. Ils iront parce qu'ils auront préféré les ténèbres à la lumière. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean chapitre 3, verset 19. Chers amis, débutons notre lecture. Colossiens, chapitre 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, par son corps, qui est l'Église. À la dernière émission, nous nous sommes quittés en parlant des souffrances de Christ. Paul a dit qu'il achevait dans sa chair ce qui manquait aux souffrances de Christ. Certains affirment qu'il faut ajouter quelque chose à l'œuvre de Jésus-Christ pour être sauvé. En fait, en Jésus-Christ, nous avons un salut complet auquel il n'y a rien à ajouter. Lorsque Jésus est allé à la rencontre de Paul sur le chemin de Damas, il a par la suite envoyé Ananias lui imposer les mains afin que Paul recouvre la vue. Il a dit à Ananias qu'il montrerait à Paul tout ce qu'il devrait souffrir pour son nom. Actes chapitre 9. C'est de ces souffrances que parlait Paul, et non de souffrances nécessaires à son salut ou de souffrances qui contribueraient à son salut. En fait, il y a deux types de souffrances. La souffrance d'un médiateur qui prend sur lui la punition d'un autre et la souffrance d'un ministre de la parole qui subit la persécution. Jésus-Christ a connu ces deux types de souffrances qui sont distinctes l'une de l'autre. Nous ne pouvons pas partager les souffrances du médiateur, mais nous pouvons partager celles du ministre de la parole. Chaque être humain porte son fardeau de souffrance. Cependant, il est possible de diviser la souffrance de Jésus-Christ en deux autres types. Premièrement, le Fils fait homme a connu la souffrance humaine. Il a connu le type de souffrance qui est commun à tous les êtres humains. Lorsqu'il est né à Bethléem, il a dû pleurer comme tous les petits bébés. Il avait un corps fragile, comme nous en avons tous, en naissant. Il a connu la faim, la soif et la solitude. Il a connu l'angoisse, la douleur et le chagrin. Il a pu dormir dans un bateau au milieu d'une tempête, car il était épuisé. Ce sont des souffrances humaines, et tous les êtres humains ont ce type de souffrance. L'apôtre Paul a affirmé, « Car chacun portera sa propre charge ». Galates chapitre 6, verset 5. Nous sommes les seuls à pouvoir porter certains fardeaux. Nous devons faire face à certains problèmes seuls. Si je deviens fiévreux, je dois endurer ma propre maladie. Un autre ne peut pas la prendre à ma place. Si j'ai un accident, je ne peux pas partager ma blessure avec un autre. C'est moi qui souffre personnellement. Nous devons tous porter notre propre fardeau de souffrance. Un jour, nous traverserons tous la vallée de l'ombre de la mort. Nous mourrons seuls dans le sens que nous mourrons personnellement. C'est merveilleux d'être chrétien et de savoir que Jésus nous accompagnera à ce moment-là, alors que personne d'autre ne pourra nous accompagner dans la mort. Jésus-Christ a souffert comme Fils de Dieu. Jésus n'a pas pu partager les souffrances qu'il a endurées parce qu'il est devenu un être humain, et il n'a pas pu partager les souffrances qu'il a éprouvées parce qu'il était Fils de Dieu. Il était Dieu, mais il s'est identifié aux êtres humains. Aucun être mortel n'a pu endurer ce qu'il a souffert. Le psaume 69 décrit les souffrances du Fils de Dieu. Les buveurs se moquaient de lui en le mettant dans leurs chansons. Il a pris un sac comme vêtement. Il a été arrêté. Et les soldats l'ont ridiculisé. Ils l'ont revêtu d'un vêtement royal et ils l'ont couronné d'épines. Avant d'être cloué à la croix, les soldats déformèrent son visage en le frappant et ils le flagellèrent. Jésus-Christ n'a pas été un martyr, mais un sacrifice. Il a souffert parce qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Aucun de nous ne pouvait souffrir en tant qu'agneau de Dieu. Nous pouvons nous approprier des bénéfices de sa mort et nous pouvons reconnaître qu'il est mort à notre place. Mais nous ne pouvons pas souffrir comme l'agneau de Dieu. Il est allé à la croix. Dieu a détourné sa face de lui et les hommes l'ont rejeté. Jésus-Christ n'a pas été un martyr, mais un sacrifice. Jésus a passé 6 heures sur la croix. Pendant les 3 premières heures, le soleil brillait et nous pouvions voir l'humanité dans toute sa déchéance. Nous avons vu le cœur méchant de l'homme en action alors qu'on se réjouissait de la mort d'un innocent. Pendant les 3 dernières heures, alors qu'il faisait sombre, soit de midi à 3 heures, nous avons vu Dieu sauver des pécheurs qu'il aime. La croix est devenue l'autel sur lequel a été sacrifié l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Citation de 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Nous souffrons pour la justice. Deuxièmement, Jésus-Christ a connu des souffrances que nous pouvons partager. Au verset 24, Paul parle de telles souffrances. Nous pouvons souffrir pour la justice. Dans la synagogue de Nazareth, la ville où il a été élevé, Jésus a dit, « Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité. » Jean chapitre 8, verset 40. Jésus-Christ a souffert pour la justice, et nous devons en faire autant. La Bible nous avertit à ce sujet. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. 1 Pierre chapitre 3, verset 14. Paul a dit au jeune Timothée, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Mes amis, si vous vivez pour la gloire de Dieu, si vous prenez position pour ce qui est bien, vous remarquerez que le monde s'écarte de vous. Lorsqu'il est temps de distribuer les distinctions et les trophées, on ne pensera pas à vous. Lorsque les gens du monde doivent louer un homme de Dieu, ils le font du bout des lèvres. Ils le louent en le maudissant peut-être dans leur cœur. Les artistes et les athlètes sont applaudis. Les politiciens le sont aussi. Les professeurs d'université sont honorés, mais pas l'homme de Dieu. Si vous défendez la justice de Dieu dans ce monde, vous devrez souffrir, car on vous persécutera. Paul avait compris cela, et il a dit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Romains chapitre 8, verset 36. Voilà ce qui arrive à ceux qui marchent dans la piété. De plus, nous souffrirons parce que nous nous identifions à Jésus-Christ afin de proclamer l'Évangile. L'apôtre Jean a dit, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » 1 Jean chapitre 4, verset 17. Jésus-Christ l'a affirmé clairement. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Citation de Jean chapitre 15, versets 18 et 19. Si vous n'êtes pas du monde, le monde vous haïra. On ne peut plaire à Dieu et au monde. La popularité d'un chrétien dans le monde est inversement proportionnelle à sa popularité auprès de Jésus-Christ. Si vous êtes un chrétien populaire auprès du monde, vous ne l'êtes pas avec Jésus-Christ. Si vous êtes populaire auprès de Jésus-Christ, vous ne l'êtes pas dans le monde. L'enfant de Dieu doit s'identifier avec le Seigneur Jésus. Lorsque nous souffrons pour le Seigneur Jésus, celui-ci souffre à travers nous, à travers son Église. Rappelez-vous lorsque le Seigneur Jésus est apparu à Saul sur le chemin de Damas. Il a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Actes chapitre 9, verset 4. Le jeune pharisien a été étonné, et il ne comprenait pas. Saul de Tarse pensait qu'il persécutait des chrétiens. Il a été étonné d'apprendre qu'il persécutait le Seigneur Jésus. Voici ce que l'apôtre Pierre a dit au sujet de la souffrance. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13. Êtes-vous disposé à souffrir pour proclamer l'Évangile? Nous sommes assurés d'une chose. Si nous désirons que l'Évangile progresse, quelqu'un doit souffrir. Nous voulons tous des réveils, mais nous ne sommes pas disposés à payer le prix, à souffrir pour proclamer l'Évangile. Nous parlons avec beaucoup de légèreté de témoigner et de vivre pour Dieu. Cependant, combien souffrez-vous pour proclamer l'Évangile? Êtes-vous disposé à souffrir pour le faire? Revenons au texte de l'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. L'apôtre Paul a reçu de Dieu la charge ou la responsabilité de proclamer le mystère de l'Évangile. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Paul avait la responsabilité d'enseigner que juifs et païens étaient sauvés par la foi et incorporés au corps de Christ. Leur sauveur venait habiter en eux, et cette présence garantissait leur glorification finale. Dieu a choisi, appelé et formé Paul afin qu'il proclame l'Évangile. Paul fut établi serviteur de l'Église. Paul n'était pas le Sauveur, ni le Rédempteur, ni le Seigneur de l'Église, mais un serviteur de celle-ci. Il a reçu cette charge de Dieu. En envoyant Ananias vers Paul, le Seigneur lui a dit, « Va, car cet homme, c'est-à-dire Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Citation du livre des Actes, chapitre 9, verset 15. Le Seigneur a choisi Saul de Tarse, appelé Paul, et il l'a rencontré sur le chemin de Damas. Ananias a aussi dit à Paul, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes. » des choses que tu as vues et entendues. » Actes chapitre 22, versets 14 et 15. Dieu a choisi lui-même de transformer Saul de Tarse, un persécuteur de son Église, en apôtre Paul, un serviteur de son Église. Paul a entendu les paroles de la bouche du juste, le Seigneur Jésus a lui-même instruit Paul. Lorsqu'il a été prêt, l'Esprit de Dieu a dit à l'Église d'Antioche, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Acte 13, verset 2. Dieu nous appelle à le servir dans son Église. Il nous choisit, nous appelle et nous forme. Collaborez-vous à votre formation? Est-ce que vous laissez l'Esprit vous enseigner en étudiant la parole de Dieu et en prenant des responsabilités dans son Église? Colossiens 1, verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Un mystère était une facette de la vérité non révélée dans l'Ancien Testament, mais qui l'est maintenant. Dans l'Épître aux Éphésiens, nous apprenons que le mystère n'était pas le fait que les païens seraient sauvés, car cela était prédit dans l'Ancien Testament. Le mystère, c'est que Dieu réunirait juifs et païens dans un même corps, qui est l'Église. Tous les hommes sont perdus, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont sauvés par la foi en Jésus-Christ, et ils sont incorporés au corps de Christ. Cela n'avait jamais été révélé dans l'Ancien Testament, mais ce l'est maintenant. Mais révélé maintenant à ses saints, Paul n'est pas le seul à avoir compris cette vérité. Dieu l'enseignait à tous les saints. Verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. L'espérance de la gloire. L'Évangile, un mystère glorieux. Dieu a voulu leur faire connaître. La source de la proclamation de l'Évangile et de l'Évangile lui-même n'est pas les œuvres des saints, de Paul ou de quiconque d'autre, mais la grâce de Dieu. Le Seigneur ne proclame pas son Évangile à ceux qui se préparent à l'entendre ou qui sont disposés à l'entendre. Il le fait par grâce. Dieu envoie des moissonneurs, mais c'est lui qui ouvre les cœurs, comme ce fut le cas de la marchande de pourpre à Philippe. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Actes, chapitre 16, verset 14. la glorieuse richesse de ce mystère. Le mystère de l'Évangile est glorieux à cause de son auteur, Dieu, de son sujet, Jésus-Christ, son contenu, l'œuvre de Jésus à la croix et l'appel à la repentance, son utilité, le salut des âmes et la gloire de Dieu, et son efficacité. Ce mystère glorieux parle de richesses telles la justification, la sanctification, la rédemption, le pardon des péchés, la réconciliation, l'adoption, la glorification et la vie éternelle. Voilà toutes les bénédictions que contient le message de l'Évangile. Imaginez, le Fils verse son sang pour nous obtenir une place au ciel. Nous sommes pardonnés et adoptés dans la famille de Dieu, qui ne nous perçoit plus comme un ennemi, mais comme un fils. Nous devenons co-héritiers de Jésus-Christ. Dieu nous déclare justes parce que son Fils a déposé sa justice dans notre compte. Nous sommes dans le Fils et le Seigneur Jésus est en nous. Le Père Céleste nous accueille parce que nous sommes identifiés au Fils. Oh, quelle richesse! Vous pouvez la recevoir en cadeau. Vous pouvez recevoir toutes ces richesses en demandant à Jésus-Christ de devenir votre sauveur personnel. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et de venir dans votre cœur. Il frappe à la porte de votre cœur. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous sommes dans le Christ. Du moment que vous placez votre confiance en Christ Jésus, le Saint-Esprit vous baptise dans le corps des croyants. Nous avons été incorporés dans l'Église qui a pris naissance à la Pentecôte, et l'Église a un avenir glorieux devant elle. Verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. L'Évangile n'est pas ce que nous prêchons, mais qui nous prêchons. C'est lui que nous annonçons. L'Évangile n'est pas ce que nous prêchons, mais qui nous prêchons. Si une personne ne prêche pas Jésus-Christ et son œuvre à la croix, elle ne prêche pas l'Évangile. L'Évangile, c'est Jésus-Christ. Il est la vie éternelle. L'apôtre Jean a écrit qu'il a vu la vie éternelle et qu'il allait nous la montrer. Dans 1 Jean chapitre 1, versets 1 et 2. Qui est-ce que Jean avait vu? Il avait vu Jésus-Christ. Mes amis, ou vous avez Jésus-Christ, ou vous ne l'avez pas. L'Évangile, c'est Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous, par sa mort, par sa résurrection, et ce qu'il fera dans l'avenir. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Il y a deux commandements pour tous les pasteurs dans ce verset. Tous les pasteurs devraient faire ces deux choses. Cependant, les deux choses ne sont pas le domaine exclusif des pasteurs. Nous devons prêcher l'Évangile afin de gagner les pécheurs et de les sauver de la colère à venir. Et nous devons enseigner aux hommes à marcher selon la sagesse. Nous devons enseigner la parole aux chrétiens afin qu'ils croissent dans la grâce et qu'ils soient des membres fidèles et utiles au corps de Christ. Ils doivent être encouragés à servir le Seigneur Jésus dans leur assemblée locale. Le texte nous dit afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Devenir parfait signifie devenir des chrétiens mûrs. Nous enseignons la parole de Dieu dans ce but. Un dernier verset pour aujourd'hui, Colossiens 1, verset 29. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Le mot « combattant » vient du grec « agonizomai », duquel nous avons tiré le mot « agoniser ». Paul nous donne son témoignage personnel. Il nous dit ce qu'il essaie d'accomplir. Désirez-vous fonctionner avec la force de Christ? Avec sa force qui agit puissamment en moi? Ceci devrait être le désir de tous les serviteurs de Jésus-Christ. Fonctionner avec la force de Christ pour accomplir deux choses. Proclamer l'Évangile pour sauver des âmes, édifier ses âmes dans la foi. Ce sont les deux missions de l'Église. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, Colossiens chapitre 2, versets 1 à 8.
Merci, Régent. Après avoir entendu tout ce bon enseignement sur les souffrances de Jésus, et sur les souffrances aussi qu'un croyant peut avoir à cause de l'Évangile, il me vient un beau chant en tête. On le chante de temps en temps à l'église. Alors, mes amis, permettez-moi de vous réciter les paroles de ce chant. Et ma prière à Dieu, c'est que vous soyez tous aussi touchés par l'amour de Dieu en entendant ces paroles que je le suis moi-même chaque fois que je les entends ou que je les chante. C'est une composition de Graham Kendrick. Alors, voici les paroles. Mon Dieu, par quel amour tu payes un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Oh, quel amour et quel sacrifice! Le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi, il paye, et pour moi, il meurt. En lui, je vis. En lui, je vis. Tu meurs, abandonné, tout seul et méprisé. Le sang ainsi versé coule pour moi. Oh, quel amour et quel sacrifice! Le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi, il paye, et pour moi, il meurt. En lui, je vis. En lui, je vis. Voici, l'amour du Christ viendra comme un torrent, laver tout ton péché. Tu vivras. Oh, quel amour et quel sacrifice! Le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi, il paye et pour moi, il meurt. En lui, je vis. En lui, je vis. Mon ami, dans ce chant, on dit à Jésus, tu payes un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as réalisé que c'était pour toi que Jésus avait payé un si grand prix en mourant sur la croix? Est-ce qu'il t'a libéré du péché? As-tu reconnu que tu étais un pécheur, une pécheresse coupable devant Dieu? Paul nous dit dans son épître aux Romains que tous ont péché. Tu es donc pécheur, tout comme moi d'ailleurs. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mon ami, si ce n'est pas encore fait, il est temps de le faire maintenant. Repens-toi. La repentance, c'est un changement de cœur à l'égard du péché qui fait qu'on veut s'éloigner du péché. Mais sans une grâce de Dieu, c'est impossible de le faire. Donc, je t'encourage à demander cette grâce, ce cadeau à Dieu. Il veut te le donner. En ce moment, je t'invite à faire cette prière avec moi. Dis-lui, « Seigneur, j'admets que je suis un pécheur, une pécheresse et que j'ai besoin de ton pardon. Je mets mon espoir dans le fait que tu es mort en rançon pour payer la pénalité de mes fautes. Je crois que toi seul peux me sauver et je t'invite dans ma vie maintenant. Je veux maintenant vivre pour toi. » Seigneur, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Et merci, Seigneur, merci pour ton grand amour.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels, ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye-bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.